Chers amis des cellules, bonjour et bienvenue à ceux qui viennent découvrir les cellules pendant le temps de l'Avent. Je vous propose que nous méditions sur l'évangile de dimanche prochain, tiré de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 24, les versets 37 à 44. Cet évangile nous permettra aussi de comprendre le sens du temps de l'Avent et ce qui est attendu de nous pendant cette période. Mais commençons par lire le texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé, et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas, que le Fils de l'homme viendra. » Fin de la lecture. Notre texte peut se décomposer en trois temps. Une première comparaison entre la venue du Fils de l'homme et le déluge. Deuxièmement, l'affirmation d'un jugement, d'un discernement, c'est l'épisode avec les deux hommes au champ, les deux femmes en train de moudre où l'un est pris, l'autre laissé. Et troisième temps, l'invitation à veiller, l'invitation à se tenir prêt. Ce texte qui a une tonalité de sagesse nous invite donc à nous arrêter pour réfléchir, pour contempler, et parce que nous avons compris ce que nous contemplions, à décider d'une façon de vivre, à décider de ce que nous allons transformer, à décider d'une nouvelle façon d'exercer notre existence. La comparaison avec l'épisode du déluge nous apporte les enseignements suivants. Le premier enseignement, c'est que, comme le déluge fut certain, la venue du Fils de l'homme est certaine. La venue du Fils de l'homme, nous comprenons la venue de Jésus dans la gloire. Or, à l'époque de Noé, la plupart des gens n'ont pas vu venir le déluge. C'est pour ça que l'on dit « on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari ». Les gens ne se sont doutés de rien. D'où la première question qui est posée aux interlocuteurs de Jésus. « Avez-vous pris conscience que le jour du Seigneur vient ? Avez-vous pris conscience que le Fils de l'homme vient ?» qu'il vient dans sa gloire. Est-ce que cette réalité fait partie de votre horizon ? Et nous pouvons nous interroger, est-ce que dans ma vie, la venue de Jésus dans la gloire fait partie de mon horizon, fait partie de ma conscience, fait partie de ma prière, fait partie de mes préoccupations ? Ou bien non, pas du tout, je vis comme si le monde était éternel, ou je ne suis centré que sur la routine de ma propre existence. Le deuxième élément que nous apporte la comparaison avec le déluge, c'est que le déluge avait pour finalité d'extirper le mal de la face de la terre. La violence sur toute la terre s'était étendue du fait de la contagion depuis le cœur de l'homme qui s'était endurci, qui s'était enténébré. Le déluge a pour objectif de purifier la terre. Cette purification n'est pas aveugle, puisque le texte de la Genèse nous précise que Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains. Le Seigneur voit cela et en tient compte. Si la venue du Fils de l'homme est comparé à l'épisode du déluge, ça signifie aussi que la venue du Fils de l'homme a pour objectif de mettre fin à l'action de la malice, à l'action du mal, à l'action des forces de mort sur la terre. mais que ce sera aussi, du coup, un discernement des hommes, un discernement de leur cœur. Et cela nous amène au deuxième temps de l'Évangile, avec cette image de deux hommes qui vont au champ, ou de deux femmes qui sont au moulin à moudre, où l'un est pris et l'autre laissé. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que, au moment de la venue du Fils de l'homme, au moment de ce discernement, au moment de ce jugement, ce n'est pas tant l'action immédiate que nous aurons qui sera importante, puisque on voit là les deux ont la même action, mais si ce n'est pas ce que nous faisons à ce moment-là précisément, ça signifie que le discernement se fera en fonction du cœur de l'homme, de la disposition du cœur de l'homme. Il ne s'agit pas d'être trouvé au moment où le Fils de l'homme viendra dans la gloire à genoux devant le Saint-Sacrement. Il s'agit d'avoir ce cœur disposé à l'alliance avec Dieu, d'avoir cette amitié développée avec le Seigneur, amitié qui est présente du coup, quelles que soient nos actions, quel que soit le lieu, quel que soit le moment de la journée. Et cela nous invite donc à réfléchir, où en est la disposition de mon cœur ? Où en est la disposition de mon cœur par rapport à l'alliance que me propose le Seigneur ? Est-ce que dans ma vie, j'essaie simplement de me débarrasser de mes obligations envers le Seigneur ? Ça y est, j'ai fait ma prière, je peux enfin vivre. Ou bien, au contraire, est-ce que j'invite le Seigneur dans toutes les actions, dans tous les lieux où je suis ? Parfois simplement en consacrant ma journée, Seigneur, voilà ce que je vais faire, sois avec moi. Voilà, Seigneur, ce que j'entreprends, voilà ce que j'ai achevé, je le remets entre tes mains. Il y a une façon de confier ce que nous vivons, ce que nous faisons, qui nous maintient tournés vers le Seigneur, alors même que nous accorderons durant le travail à faire toute notre attention à la tâche qui nous est demandée. Mais ce n'est pas exactement la même chose, on pourrait dire, d'entrer au bureau comme cela, l'esprit déjà chargé de tout ce qu'il y aura à faire, ou de s'être arrêté un instant pour dire « Seigneur avec toi pour ces rencontres, Seigneur avec toi pour ces tâches, Seigneur avec toi pour cette journée. » Et au terme du jour, de dire « Ben voilà, Seigneur, je le remets entre tes mains, voici ce qui a été fait, voici ce qui reste à faire. » Bénis-le, porte-le dans ta bienveillance. L'homme qui est ainsi dans la disposition d'un cœur tourné vers le Seigneur ne craint pas le moment où vient le Fils de l'homme, qu'il soit au champ, qu'il soit à la maison, qu'il soit en train de moudre du grain, parce que son cœur est tourné vers le Seigneur, son cœur veille. Et du coup, nous arrivons à la troisième partie de notre évangile, qui est cet appel à la veille, cet appel à être prêt. Tenez-vous donc prêt. Ce qui manifeste que le fait que nous soyons prêts ou pas n'est pas indifférent au Seigneur. Cela relève de notre liberté, mais le Seigneur ne nous dit pas « Voici, tu as deux chemins, choisis celui que tu veux, c'est à toi de voir ». Le Seigneur nous indique qu'il y a bien deux chemins, mais ça ne lui est pas indifférent. Il nous exhorte « Tenez-vous donc prêt, tenez-vous donc prêt ». Je vous explique comment cela se passe. Vous savez ce qu'il y a à faire, faites-le, tenez-vous donc prêt. Ce n'est pas indifférent à mon cœur, nous dit le Seigneur. Je prends la peine de vous le dire parce que ce n'est pas indifférent à mon cœur. Là encore, petite parenthèse, nous pouvons nous interroger. Est-ce que j'ai conscience que cet appel que le Seigneur m'adresse, ou plus exactement que la réponse à cet appel que le Seigneur m'adresse ne lui est pas indifférente? Nous voyons parfois le Seigneur comme celui qui nous parlerait de très loin en nous donnant une vague indication, alors que c'est celui qui s'est fait le plus proche, il s'est fait cher, et il s'est fait cher par amour pour nous. Est-ce que nous sommes capables d'entendre et sa bienveillance et son amour pour nous à travers l'avertissement, à travers l'exhortation qui nous est adressée? Car ce n'est pas tout à fait la même chose d'agir, de réagir, lorsqu'on a saisi les encouragements de quelqu'un qui nous aimait, ou lorsque l'on a simplement reçu une consigne d'un maître indifférent. ce troisième temps de l'Évangile nous pose donc une question. Vas-tu te préparer à la venue du Fils de l'homme? Vas-tu faire en sorte d'être prêt? Le temps de l'Avent correspond bien à cet Évangile, en ce sens qu'il est un coup d'arrêt, on pourrait dire, qui nous est donné au début de l'année liturgique pour nous arrêter, pour contempler où est-ce que nous allons aller. Nous nous préparons à la venue en gloire du Seigneur. Nous nous préparons à entrer dans son royaume. Alors est-ce que nous allons nous tenir prêts? Et ça veut dire quoi, nous tenir prêts, entrer dans le royaume avec lui? Eh bien, apprendre à aimer comme lui aime pour participer à la communion d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Alors, nous y préparer, apprendre à aimer comme il aime, ça va être de le contempler à travers les évangiles. Et un nouvel évangile nous est proposé cette année, l'évangile selon saint Matthieu. C'est peut-être une bonne résolution de se dire, ça va être l'occasion pour moi de relire dans son intégralité l'évangile de saint Matthieu. Chaque jour, j'en lis un petit passage, je mets mon marque-page et je reprends le lendemain. Donc, première chose, pour me préparer, contempler le Christ avec saint Matthieu. Deuxième chose, pour me préparer, comprendre que le Christ vient appeler un peuple. Il nous sauve personnellement, mais il nous sauve au sein d'un peuple. Et c'est donc l'idée, la volonté, la détermination, la résolution d'approfondir ma présence au sein du peuple de Dieu, d'approfondir ma présence au sein d'une communauté, communauté paroissiale, groupe paroissial, où je vis de la fraternité du Christ, ça peut être les cellules paroissiales d'évangélisation, où je vis de cette fraternité du Christ, témoignant auprès de mes frères et recevant aussi de mes frères leur témoignage de foi. Vous savez que l'actualité de l'Église est marquée par un effort de purification, et donc il y a des affaires tristes qui sont en train de sortir, mais qui doivent être menées jusqu'à leur terme pour cet effort de vérité et de purification de l'Église. Et ça signifie que pendant ce temps de purification, on peut être tenté par le désespoir, on peut être tenté par la perte de confiance. Or, c'est parce que le travail de vérité est réel que des affaires sortent, donc c'est le moment non pas de perdre confiance, mais de dire « Seigneur, donne-nous ta grâce, ta force, pour que justement nous profitions de ce temps pour nous retourner vers toi, pour que nous profitions, nous mettions à profit ce temps pour purifier notre vie, notre cœur, pour purifier nos relations. » Souvenons-nous d'une petite chose de l'épisode de l'arche de Noé, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui ferme l'arche pour Noé. C'est pas Noé tout seul qui arrive à fermer l'arche. Eh bien, de la même façon, le travail de purification du peuple de Dieu, de l'Église, c'est un travail où le Seigneur a le dernier mot. C'est un travail où le Seigneur a le dernier mot. C'est pas simplement basé sur l'ingéniosité, la ressource ou la détermination des hommes. Il y a la place et la confiance, Seigneur, c'est toi qui fermes la porte de l'arche de Noé pour qu'elle puisse accomplir sa mission, pour qu'elle puisse être efficace, puisqu'elle puisse être un lieu de refuge. Alors je crois et j'ai confiance qu'aujourd'hui encore, ton action sera efficace, que la dernière touche, que le dernier mot, c'est à toi qu'il appartient. Dernière remarque, la tradition juive relève que la construction de l'arche a duré 100 ans, a dû durer 100 ans. Et donc pendant 100 ans, Noé a donné un témoignage qui devait être étonnant, qui devait peut-être même paraître ridicule aux gens. Pourquoi est-ce que tu construis une arche au milieu des terres? Et Noé s'est montré persévérant. Noé ne s'est pas effondré face aux moqueries qu'il a pu entendre des uns et des autres. De même, nous, quand nos efforts de persévérance, quand nos efforts pour vivre l'alliance du Seigneur semblent absurdes aux yeux du monde, demeurons fermes dans la foi, demeurons persévérants dans l'espérance, comme Noé. C'est ainsi qu'il a pu monter dans l'arche avec toute sa famille, c'est ainsi qu'il a pu profiter du salut de Dieu. Je vous souhaite de bons échanges.